installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles. Du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique.
Bonjour mes petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver en cette énième émission d'Étincelle. Alors, elle va se passer en deux étapes, c'est-à-dire que la première, c'est aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle et on est très heureux ici de la recevoir à la radio. Il s'agit de Dominique Fraud, comédienne, metteur en scène, réalisatrice. Et elle sera, ça c'est le scoop, avec nous aussi la semaine prochaine parce qu'il y a une actu de folie à partager avec vous. Déjà, les spectacles du Festival d'Avignon, mais aussi une actualité très très chargée pour cette personnalité du monde du spectacle, Dominique Fraud, qui est présente avec nous. Je suis très heureuse, Dominique, de vous recevoir sur Étincelle, sur Radio Anguin, IDFM 98. C'est vraiment adorable à vous de vous être déplacée avec nous dans nos locaux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Dominique. Alors vous avez décidé, mais ça vous ressemble, vous êtes tellement généreuse, de parler des autres. De tout le beau travail qu'ils font, des acteurs, des réalisateurs, des écrivains. Et vous avez eu des tas de coups de cœur. Vous avez préparé d'ailleurs carrément une monographie à plus de 16 pages.
Oh là là. Ah ben oui, j'avais pas vu.
16 c'est pages juste d'informations. Donc c'est pour ça que deux émissions, à mon avis, y suffiront tout juste.
D'accord, d'accord.
Je voyais les pages défiler. Je me disais, mais il y en a combien?
Oh, je n'en reviens pas. Je me suis pas rendu compte.
Eh bien, c'est ça la passion. Alors, j'adore je reprends votre phrase, je cite hors antenne, je vais réduire.
J'avais dit je vais réduire. Oui, je vais réduire. Ah oh, ben oui, c'est un peu incroyable, oui, d'accord.
Donc, Dominique, vous êtes déjà venue ici, à l'antenne.
Oui.
Et cette fois-ci, j'ai la chance de vous recevoir dans mon émission, donc je suis très très heureuse. Pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu votre parcours? Et on va faire ça très succinctement avant de parler des autres, mais un tout petit peu de vous d'abord.
Bon, écoutez, alors mon parcours, je vais vraiment le faire en trois mots. C'est genre... je suis à l'école, je m'intéresse à tout. On me poursuit un petit peu pour me mettre... quand je fais du piano, on veut que je rentre au conservatoire. Quand je fais des maths, on me dirige vers des choses scientifiques, genre médecine, tout ça. Et puis, en fait, je voulais faire ce que je fais, mais pas pour aller quelque part. Donc, finalement, je me suis dirigé vers faire l'actrice en pensant que, bah, j'en sais rien, peut-être intuitivement, je me suis dit que passant d'un rôle à l'autre, bah, c'était une bonne manière de s'enfuir. Donc voilà, je fuis depuis 30 ans.
Avec beaucoup de brio, apparemment. Vous avez du métier en la matière.
Voilà, je fuis et je pense, je fuis de rôle en rôle d'abord, et puis je fuis de plus en plus, à savoir, plus je joue, plus ce métier me révèle que je m'intéresse à tout. Pour moi, ce métier, c'est comment être humain dans un monde inhumain. Et ça, on peut le chercher partout. Alors, quand on a la chance de le chercher sur un plateau, c'est une chance, mais c'est comme le moteur d'une voiture. Quand il marche bien, on peut s'intéresser à plein d'autres choses. Donc, quand je fais l'actrice, c'est comme le moteur qui m'emmène sur plein d'autres choses qui ont à voir pour moi, qui ont totalement à voir avec le fait de faire l'actrice. Voilà.
Alors, il y a aussi une chose, c'est que vous m'avez dit que c'était important de faire le lien avec le social. C'était très important pour vous, ça aussi.
Oui, c'est capital. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Souvent, on me demande des choses du genre... qu'est-ce que t'aimes comme acteur, etc. Bon, j'en sais rien, moi j'aime les acteurs qui me font ressentir qu'ils sont humains, voilà, c'est ça que je trouve un bon acteur. Ça veut pas dire que tous les humains sont des bons acteurs. Moi je pense que tous les êtres humains peuvent être acteurs, il suffit d'avoir envie de pousser une certaine porte qui est commune à tous, absolument tous, mais on la pousse ou on la pousse pas. Alors, le social, comme ça, peut-être le mot n'est pas vraiment d'une évidence, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui politique culturelle, comment on appelle ça déjà, de l'enseignement culturel, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc qui est hyper à la mode et que le ministère de la Culture, pour telle et telle raison que j'ai pu auquel j'ai pu m'intéresser un petit peu, me questionner, pousse vers cet enseignement culturel à côté de notre pur métier d'acteur. Écoutez, les gens font rentrer des choses dans des cases. Pour moi, elles ne rentrent pas dans des cases. J'invente des choses. Des gens viennent à moi qui me proposent des choses qui sont complètement la continuité de mon métier d'acteur. C'est écouter les autres, parler aux autres. Avoir des occasions de chercher à partir des auteurs, à partir des réalisateurs. Pour moi, regarder des films, c'est continuer mon métier d'acteur. Et je dis plutôt acteur plutôt qu'actrice, parce que actrice, ça fait mèche, ça fait comme si on voulait être belle ou comme si on voulait faire attention à son image, alors que pour moi, faire l'acteur, c'est plutôt sortir de l'image, plutôt qu'aller vers l'image. Donc, pour moi, regarder des films, regarder, arriver à dire les films qui nous sont importants aujourd'hui et qui nous accompagnent dans ce monde qui n'est pas facile, où il est terriblement difficile d'être humain dans ce monde inhumain sans finir clodo sur un trottoir.
C'est vrai.
Eh bien, regarder les films qui nous accompagnent là-dedans, c'est capital, et savoir détecter les films qui sont capitaux, qui sont bienvenus d'avoir été faits, qui sont plus utiles qu'inutiles, c'est capital. Par exemple, est-ce que je peux vous dire
bien une sûr.
Liste comme ça, dès aujourd'hui, elle sera faite. Alors, je dirais 120 battements de Campillo, je dirais A Beautiful Day.
Alors attendez, on parle de quoi? On va replacer les choses dans le contexte.
On parle de quoi? Alors là, je vous cite plusieurs titres de films,
oui. Mm-hmm.
Qui sont les films de cette année,
oui.
Qui se trouvent dans le coffret des Césars de cette année,
oui.
Et qui sont les films qui sont carrément à voir d'urgence,
alors,
ou bien alors qui sont en partie à voir, mais cette partie est importante.
Alors Dominique, comme on sait que vous revenez la semaine prochaine, on va prendre le temps d'en parler, d'en dévoiler un peu la saveur. 120 battements par minute.
Ouais.
Alors c'est un film, alors là je suis d'accord de l'avoir mis en première position. Moi j'ai été bluffée, je l'ai vu à Cannes, et
oui.
Il est fabuleux. Alors pourquoi ce choix?
Écoutez, alors est-ce qu'on pourrait renverser la vapeur?
Oui.
C'est-à-dire... Vous me dites pourquoi ce choix? J'ai envie de citer des titres. Donc, je suis plutôt à citer le menu, on va dire. Et puis, peut-être la semaine prochaine, on en parle plus profondément. Ne serait-ce que les titres et les noms des gens, ça raconte déjà beaucoup de choses. Donc, 120 battements par minute, Campillo. A Beautiful Day de Lynn Ramsey, dont j'avais vu avant un très très beau film. À voix haute de Stéphane de Freitas, L'atelier de Laurent Cantet, L'autre côté de l'espoir de Kaoris Maki, Barbara de Mathieu Amalric, La belle et la meute de Kauter Benania, Le Caire confidentiel de Tarek Saleh, De toutes mes forces, souligné trois fois, de Chad Chenouga, Faute d'amour d'Andrei Zviatgintev,
je l'ai adoré.
Souligné
fabuleux.
Cinq fois.
Ah oui, il est merveilleux ce film.
Et si je ne me trompe pas, il en avait un à Cannes cette année.
Oui, mais il était au jury aussi.
Il était au jury.
Il faisait partie aussi. Du jury, oui.
D'accord. Félicité de Alain Gomis. Gauguin, le voyage à Tahiti d'Édouard Deluc. Grave de Julia Ducournau. Je danserai si je veux, Maïssa Luna Mood. Moi, je danse avec elle quand elle veut, et je connais quelqu'un d'autre qui danse avec elle quand il veut, quand elle veut, et je vous parlerai de ce quelqu'un d'autre tout à l'heure.
D'accord.
I'm Not Your Negro de Raoul Peck, et Karl Marx de Raoul Peck. Et Latifa, Le cœur au combat, d'Olivier Payon et Cyril Brody. C'est Latifa, c'est la maman de Mohamed Merat, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, ce monsieur de Toulouse. Voilà, le cœur au combat, Latifa. Lumière, l'aventure commence, de Thierry Frémaux. La mécanique de l'ombre, de Thomas Kruithof. La mélodie, de Rachid Ami. Une séquence, pour la première séquence, de celle de tous les mômes qui vont jouer du violon. Après, ça s'en va en queue de poisson, mais cette première séquence, comme dit je ne sais plus qui, Michel Serrault, une séquence dans un film, ça suffit pour faire un film. Il en faut une, là il y en a une, elle est inoubliable. Noces de Stéphane Strecker, ça c'est un film. Paris la Blanche de Lydia Terki, Passion de Grand Corps Malade, et d'un autre que lui, je ne l'ai pas noté, son copain qui a fait le film avec lui. Le petit paysan de Hubert Charuel.
Ah bah oui, bien sûr.
Qui se trouve à peu près la même histoire que la nôtre dans le cinéma. Notre métier, comment peut-il rester notre métier aujourd'hui où tout n'est qu'argent. Le petit paysan, c'est un peu l'histoire de notre métier transposé. Une famille syrienne de Philippe Van Leeuw, extraordinairement important. Une femme douce de Loznitsa, Une vie ailleurs de Olivier Payon.
Il est terrible ce film, Une femme douce.
Il est terrible, absolument.
Il lui laisse aucune chance, mais ça montre bien la Russie en profondeur avec les pots de vin, avec finalement c'est kafkaïen. C'est tout à fait kafkaïen. Il n'y a pas d'autre mot, elle a aucune chance de s'en sortir.
Je suis d'accord avec vous.
Et pourtant, on voit qu'elle fait des efforts. Elle a beau rentrer dans le système la rejette et le système fait plier l'homme. L'homme n'existe pas. C'est intéressant d'ailleurs parce que, enfin, ça c'est mon sentiment. Au Canada, c'est la loi qui s'ajuste autour de l'humain. Et d'ailleurs, par exemple, quand les professeurs veulent aller habiter au Canada, ils passent des cours pour apprendre à enseigner.
Ouais.
Ils ont ça depuis des années, hein, depuis 30 ans, c'est comme ça, ou plus encore. Alors qu'en France, c'est pas pareil. On demande à la personne de se plier aux lois et aux règles. Et on ne reconnaît le travail que s'il y a un diplôme. Sinon, la personne, on dirait qu'elle n'a pas de cerveau.
Ouais.
Alors que, par exemple, aux États-Unis, on peut être self-made man ou self-made woman. À partir du moment où on a une idée, on va dire, bah super, combien tu coûtes? Bonjour. Moi, je fais tant, je fais ça. Voilà ce que je représente, je suis de l'humain. Donc, aux États-Unis, c'est plus effectivement capitaliste. Et donc, on voit quand même qu'il y a des inégalités où il y a des gens qui se prennent un petit peu, c'est le rêve américain, mais les gens s'engluent un peu dedans, s'ils n'ont pas la structure nécessaire, s'ils n'ont pas la rigueur, s'ils n'ont pas la volonté de s'en sortir, ou la discipline, ou le travail. Ça suffit pas simplement l'aspiration, il faut aussi beaucoup de travail et de la volonté, de la persévérance. S'il n'y a pas ça, ils s'écroulent. S'ils ont ça, au niveau du rêve américain, il suffit de rencontrer une bonne personne qui va vous tendre la main parce que justement, vous avez fait preuve de ces qualités-là. Et puis, il y a, donc, comme je le disais, au Canada, où il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus humain et on est plus dans une relation conviviale au Canada. On va être plus plan-plan, d'une certaine manière. Alors qu'en France, on va être dans le jugement. On va faire rentrer dans des cases. On ne peut pas être dans plusieurs cases en même temps. Et c'est
alors,
compliqué.
Alors, moi, là, vous me branchez sur un sujet. La France est mon pays, donc je veux dire, je suis né là. Mais si je ne le savais pas, si je ne le savais pas et si je ne savais pas comment, en France, quelque chose me ramène toujours là, où pourtant, je pense que dans ce pays, on est presque là pour être empêché à longueur de journée. Les moments où moi j'ai pris un avion pour les États-Unis, j'ai commencé sur le trottoir avec mon portable, et j'ai monté 3 productions. Et elles ont vraiment eu lieu dans des cadres très officiels, ou avec plusieurs ambassades de France qui m'ont aidée, mais aussi les Américains qui m'ont aidée. Mmh. Et je suis allée là-bas, je suis partie du trottoir, mais comme un être humain, pas comme une actrice qui veut faire son métier, qui veut être actrice, qui ceci. Quand j'abordais les gens, quand je leur téléphonais, c'était vraiment en tant qu'être humain, et c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler d'un auteur. Et les fois, les trois fois où j'y suis allé, c'était, on va dire, l'écriture de quelqu'un me poussait absolument, m'emmenait à parler de cette personne. Pourquoi ? Parce que cette écriture, à l'entendre, à la lire, je suis souvent quelqu'un qui met longtemps pour lire, mais qui lit profond jusqu'à ce que, quand je sens qu'une écriture va m'emmener, à un moment, elle me fait me mettre debout, quoi, et prendre l'avion. Et c'est pourquoi, c'est parce que justement ces écritures contiennent quelque chose qui dit comment être humain dans un monde inhumain. Ces écritures se lèvent. Elles n'existent pas avant d'avoir été écrites. Elles commencent à exister au moment où elles sont écrites. Je sais pas si ça, mais pour moi, la France, très sincèrement, mais je vais peut-être me le prendre sur la figure, c'est un pays où on est sacrément empêché. Ou alors, il faut se démerder à chose que je n'ai pas fait, moi.
Pourtant, votre talent est reconnu, on connaît votre pugnacité, on connaît la profondeur de vos propos, j'allais dire votre expérience, et puis les réalisations que vous avez faites parlent pour vous. Donc, il y a déjà des portes qui s'ouvrent quand on vous voit.
Oui, il y a des tas de portes qui se sont ouvertes, pas celles qui font que je m'ancre dans le terrain, comme...
Qu'est-ce que vous attendriez, par exemple ? Profitez-en.
C'est vrai, il faut profiter. Déjà, arriver à donner une liste de films qui sont plus utiles qu'inutiles, c'est déjà Byzance pour moi. On va dire, ce dont je pourrais avoir envie, mais j'ai un petit cadeau qui m'est tombé dessus il y a quelques jours, qui est pas mal du tout, quoi, dans le genre. Mais le jour où Soda est tombé sur moi... c'était vraiment un cadeau du ciel, quoi. Mais quand je dis du ciel, on dit cadeau du ciel, c'est une expression toute faite. C'était un vrai cadeau et qui est resté longtemps un cadeau et jusqu'à la fin et jusqu'au moment où on m'a dit c'est terminé, où je trouvais ça très sain que ce soit terminé, très sain que les jeunes gens là-dedans ils passent à autre chose. Et mais tout du long, cette espèce d'ouverture continuelle entre la production, les auteurs, les acteurs, ouverture de l'écriture par rapport à ce qu'on proposait sur le plateau, ce qu'on recevait ensuite comme nouveau texte, était comme si les auteurs avaient entendu ce qui nous avait traversé la tête pendant la session d'avant, etc. Pour moi, j'ai appris plein de choses et j'ai aussi vu une équipe d'acteurs dont aucun m'a donné la sensation de la séparation, c'est-à-dire que chacun travaillait pour soi, pour son chemin, pour sa carrière. Je n'ai pas du tout eu cette sensation pendant les 5 ans. Bon, on peut se boucher les yeux. On a l'espoir dans la vie qui est très fort chez moi. Donc souvent, je me démerde à ne voir que ce qui me donne de l'espoir. J'y arrive bien dans ce truc-là.
C'est le principal.
Mais j'ai la lucidité qui est proportionnelle à ça. Donc, voilà. Donc, je peux dire que l'univers de la série est l'endroit où ça crée un chemin qui te permet un travail. Parce que... une série, c'est comme une île. L'île, ça permet de naviguer. Moi, j'en reste pas à dire les mots de la série. J'en reste pas à me dire je suis une actrice qui va bosser sur ma série où on m'attend et demain je voudrais faire un autre truc et faut que je me branche sur un autre truc. Non, une série, c'est une île qui me permet d'aller naviguer. Donc de voir bien autre chose que le monde du cinéma ou de la télévision, c'est d'ailleurs pendant Soda que je suis partie recréer une nouvelle histoire aux États-Unis qu'elle a marché fort bien. Donc, si vous voulez, si on me disait aujourd'hui, si je veux être simple, si une nouvelle série me tombait dessus, là, on m'attendait une chose jolie cet été, et j'ai été très heureuse de les rejoindre sur un tournage. C'est pas une série, c'est une collection. J'ai d'ailleurs retrouvé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 36 ans.
Et c'est quoi la différence entre une série et une collection, Dominique Fro?
Une collection, il n'y a pas de personnages récurrents.
Ah,
et
d'accord.
Chaque nouvel épisode peut contenir, et d'ailleurs je pense, ne contient aucun personnage.
C'est comme une série de pilotes.
C'est ça, voilà, d'accord. C'est ça. Mmh. Voilà, mais qui s'appellent tous avec une...
Un dénominateur commun.
Un c'est dénominateur commun, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, je peux dire, l'univers, le temps donné par la série permet un voyage que j'ai... J'ai connu différents voyages, celui... Donc, j'aurais pu dire, continuer ma phrase en disant que je n'ai jamais connu ailleurs ou d'une autre façon. Ce voyage-là, il m'a plu particulièrement. Il y a d'autres voyages qui me plaisent, qui sont différents, qui sont peut-être plus difficiles, mais je ne regrette pas les voyages plus difficiles. Par exemple, je vous donne un exemple.
Oui, bien sûr.
Par exemple, il y a un an... Il y a des gens qui me disent, des gens avec qui je discutais. Depuis longtemps, on mange ensemble, tout ça. Rien à voir avec le cinéma, mais à voir avec l'écriture et tout ça. Et puis un jour, ils m'apprennent que ce dont on discute et qui me passionne, et le sujet revient souvent sur le tapis, ça s'appelle sémiotique. Mm-hmm. Ah, j'ai, ah bon, d'accord, sémiotique, ça donne pas envie. On
oui,
me dirait,
c'est vrai, c'est un nom particulier. Hein.
On me dirait comme ça, viens faire de la sémiotique. Non, pas vraiment, quoi. Et puis, il s'avère que on me dit, bon, tous les ans, les pays font une liste de gens à la mémoire de qui ils aimeraient bien faire un truc international, après tous les pays d'Europe, après les listes de chacun des pays sont croisées avec les autres, et ils voient la personne qui a le plus été citée par chaque pays, et ils font quelque chose, un colloque international à propos de la personne. Et donc, je me suis... Et tout d'un coup, on me dit, Dominique, la personne qui a été choisie pour cette année, c'est Julien Alguirdas Grémas. Mm-hmm. Ce monsieur, alors je dis, ah bon, mon Dieu, qui est Julien? Et en gros, sa vie, donc racontée par moi, hein, d'après ce que je me souviens qu'on m'a dit, c'est un Lituanien qui... À 18 ans, est enrôlé dans l'armée lituanienne. La Russie court toujours après la Lituanie. Mm-hmm. À plusieurs reprises, elle l'a lâché, reprise. Enfin, lâché. La Lituanie a réussi à se faire lâcher par la Russie. Enfin, bref, c'est une course constante. Et à cette époque-là, la Russie remet ça. Donc, il est enrôlé dans l'armée lituanienne. Quelque part contre la Russie, fait prisonnier par les Russes, enrôlé par l'armée russe, un truc genre contre les nazis, fait prisonnier par les nazis, il prend ses jambes à son cou, il risque sa vie et peut-être il risque d'autres choses, plus délicates que sa vie propre.
D'accord.
Et le voilà qui se retrouve en France. Alors bon, par mes mots, je dirais clodo un moment, SDF, rien du tout quoi. Il apprend la langue française et il se demande comment se défaire de son identité de Lituanien. Et pour lui, les valeurs sociales sont inscrites dans la langue. Et au lieu de faire comme tout le monde quand on essaye d'avoir une autre nationalité, de chercher un passeport clandestin, voilà ce monsieur qui se met à se battre contre le squelette du langage, mm-hmm. puisque les valeurs sociales sont inscrites dans la langue et que ce qui fait qu'il est lituanien, c'est bien d'avoir été éduqué, d'avoir grandi dans la langue lituanienne. Donc le voilà qui commence à se battre contre le squelette du langage, d'abord en lituanien, puis en français qu'il apprend totalement, et puis petit à petit, année après année, il se retrouve grand docteur inventeur de cette nouvelle science du langage qui s'appelle la sémiotique, et il se retrouve docteur dans plusieurs universités parisiennes. Et voilà, je suis donc allé, et on me propose, on me dit, voudrais-tu, il serait intéressant pour nous d'entendre des textes de ce monsieur portés par quelqu'un qui, disons, entre guillemets, travaille de la tête aux pieds, puisque c'est le cas d'un acteur, voir qu'est-ce qui pourrait se passer entre l'écriture de cette personne et un acteur. Je suis donc allé m'asseoir pour étudier certains passages sur lesquels m'ont orienté Yvan et Denis, qui s'y connaissent fort en sémiotique. Donc il s'agit de Denis Bertrand et Yvan. Ah pardon, et Yvan
le terrible.
J'ai donc fait un montage à partir de ces textes-là. Je me suis retrouvé à la mairie de Paris, dans la salle des Arcades, à faire l'ouverture du congrès international pendant une heure et demie. Et c'était chapeauté par l'UNESCO et les universités parisiennes et la mairie de Paris, à la suite de quoi il y avait la suite du congrès à l'UNESCO. Mmh. Et à la suite de ça, le Théâtre National de Vilnius a passé un coup de fil pour dire que la soirée que j'avais faite, ils en voulaient au Théâtre National de Vilnius. Je me suis donc retrouvé.
Magnifique.
On a construit ça avec les deux éditeurs de ce monsieur Grémas, les deux éditeurs lituaniens avec qui je suis rentré en contact pendant 6 mois, et je me suis retrouvé fin février dernier, mm-hmm, en Lituanie à refaire ce spectacle dont j'ai fait une petite partie en lituanien.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Vous avez appris par cœur ?
Disons que l'un des éditeurs qui s'appelle... Alors, il y en a un qui s'appelle Saulius et l'autre qui s'appelle Kestutis. Donc, avec Kestutis, il m'avait envoyé un poème en lituanien sur le monsieur en question, qui avait été écrit sur le monsieur en question. Et je ne sais pas, je me disais, la Lituanie représentait encore de l'ailleurs pour moi. Un endroit où, comme aller sur la lune, quoi, alors qu'il n'y a plus d'ailleurs, à mon âge, il n'y en a plus, quoi. Ça se bouge, quoi. Capitalisme, ou alors je ne sais quoi.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais bon.
on peut en parler tellement longtemps.
Oui,
hein.
C'est sûr.
Et donc, je me suis retrouvée, mais la Lituanie m'évoquait de l'ailleurs, et je me disais, c'est pas possible que j'arrive dans un théâtre et que je me retrouve dans une soirée comme à Paris où on me dit, oui, c'est bien, vous êtes une bonne actrice, super cette actrice, je sais pas quoi. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je ressente de l'ailleurs. Et donc, comme je fais toujours une balade le matin, je me suis mise chaque matin à apprendre une ligne de ce poème dont je ne comprenais strictement rien, mais je l'apprenais pour vous donner un exemple. Il y a un truc qui était Nao yegu pasqui nous silais to me graitai sous temps. Il y avait un vers qui faisait ça.
Alors je précise à nos auditeurs, si vous nous rejoignez, vous n'êtes pas en Lituanie, vous êtes sur Radio Anguin, TFM 98, avec Dominique Fro qui nous récite un poème en lituanien. Donc, allez-y Dominique.
Donc ça disait « Nao yegu pasqui nous silais to me graitai sous temps ». Alors j'ai appris ça comment ? Nao, c'est Nao en anglais. Yegu, c'est un copain à moi qui est mort il y a 30 ans.
Ah, d'accord.
Parce que je me suis dit, oh Yegu, on l'a mis au four crématoire, il n'était pas cuit. nous c'est là, c'est tout meux, j'ai dû me...
Vous avez utilisé en fait plein de petits moyens mnémotechniques.
Oui, voilà. Mais petit à petit, dans ce poème qui faisait 3 pages, il y avait des mots qui revenaient. Et petit à petit, alors que je suis partie sans aucun sens,
oui,
petit à petit, le sens, en comparaison des mots qui revenaient, et comme ils ont des déclinaisons, ils ne revenaient pas tous sur la même forme,
oui,
petit à petit se dessinait un sens. Et à la fin, j'ai, sans être passée par une traduction, j'ai compris tout ce poème. que j'ai dit au théâtre de Vilnius. Et le rap, c'était une histoire plus difficile qu'une série télé, oui. Mais elle était merveilleuse, quoi, vraiment. Et après, la balade avec Kestutis et Saulius, les deux éditeurs, Saulius est le plus grand éditeur de Lituanie, c'était vraiment merveilleux. J'ai appris plein de choses. Kestutis m'a fait visiter Vilnius dans toutes les coutures, l'université magnifique, etc. Et après, j'ai des gens de Bologne qui m'ont appelé pour voir si on pouvait pas reprendre cette histoire à Bologne parce que Grémas était un copain de Umberto Eco.
Oui.
Et Umberto Eco était sur certains de ses bouquins, pas ses romans mais d'autres, totalement branché sur la même science de la sémiotique. Et donc j'ai reçu un coup de fil de Chypre et un coup de fil de Bologne qui disait on va essayer de voir si on peut faire reprendre cette affaire. Le merveilleux, c'est que je me suis retrouvée à Avignon. J'allais plutôt
festival. Hein.
Oui, j'ai très peur d'aller dans ces choses où oui, j'ai peur. Mais je suis une fille assez angoissée.
Attendez, vous avez vu 50 spectacles en 4 jours, vous m'avez dit
20.
Ah, 20, mais c'est déjà énorme, 20 spectacles en 4 jours et vous me dites que vous avez peur?
Je peux vous dire 3 jours avant oui.
Mais pourquoi?
Mais j'ai peur pour tout moi. C'était pour quand je suis allée à Vilnius 3 mois avant, je savais parce qu'il y a quelque chose que je souhaite. Et c'est pas une ambition, c'est absolument autre chose. Et c'est comme si ce quelque chose que je souhaite, c'est pas si je ne l'ai pas, je serais pas contente. C'est si je l'ai, je serais tellement contente. Et à Vilnius, il y avait eu ça. Et on peut dire soda.
On veut dire
j'avais
cette
espèce un espoir.
De magie, d'osmose, de partage avec les autres, avec du sens.
Ouais.
C'est ça.
Mais c'est que malgré le fait que chacun, on n'est plus là que pour quelque chose. L'être humain est là parce que c'est sa fonction, parce que ceci, parce que cela.
Mais parce
j'ai besoin de sentir au-delà des fonctions, au-delà des rôles, quelque chose qui se passe, qui a à voir avec une présence totalement gratuite. Et qui est ramené à la condition humaine. Mais pour ça, pour moi, on est tous dans des fonctions constamment. On a tous une raison d'être là. J'ai besoin de toucher cet endroit où nous sommes là sans raison. C'est l'endroit, pour moi, où je ressens à nouveau l'être humain, celui qui va mourir. J'ai besoin de celui qui va mourir. Pas que la mort m'emmerde, ni qu'elle me fasse la joie, mais cet endroit où la vie est à hauteur de mort, c'est cet endroit où je sens la vie. Il n'est justement pas question de la mort. C'est l'endroit où j'entends la vie à mort.
Vous voulez en fait être dans l'instant présent avec l'essence des gens et partager à ce niveau-là et non pas à un niveau social entre guillemets de fonction, mais d'être vraiment là pour lui-même, enfin d'humain à humain.
C'est une chose qu'on peut presque plus dire aujourd'hui. On peut presque.
Mais si
plus...
on a le droit de le dire.
Non, mais on n'a pas de mots et ce que je sais le mieux, c'est ce que je ne sais pas dire. C'est ce que je ne peux prononcer. C'est ce que je sais le mieux. En tout cas, cet endroit que j'espère est ce que je sais le mieux et que je peux rarement dire. Parce qu'aujourd'hui, l'acteur est devenu une fonction et souvent, quand on a un acteur en face de soi, on est dans une espèce de carapace.
Mais vous savez, les acteurs que j'ai rencontrés de près, j'ai rencontré des grandes personnalités, pas forcément à l'antenne, hors antenne, en discutant avec eux. Ce sont en tout cas ceux qui ont vraiment du talent, ils ont vraiment cette espèce de feu sacré qui est en dehors, bien en dehors de la fonction, et c'est avant tout des êtres humains, et ils sont
absolument
touchants.
Absolument.
Les vrais de vrais, ils sont comme ça.
Oui, oui.
Et j'en ai croisé 4 ou 5 qui m'ont bluffé, mais tous avec exactement la même intensité.
Mais quelque part, il y en a beaucoup, parce qu'on manque tous de la même chose. Et qu'on est tous des agents doubles, on est oublié. Enfin, on sait comment c'est difficile.
Alors, c'est un peu différent, Dominique. Je rappelle nos auditeurs, Dominique Fro est avec nous sur l'antenne de Radio Anguin. C'est à Cannes qu'il y a cette espèce de virage. Parce que on regarde, pour que Cannes puisse vivre, pour que le cinéma puisse vivre, il faut trouver des fonds. Et les fonds, d'une part, viennent par les recettes du cinéma, mais elles viennent aussi par les recettes produits et puis les dérivés. Donc, c'est ces recettes produits qui font que les produits ont essayé d'attirer par le glamour. Et c'est ça qui a fait cette confusion à un moment donné, que l'actrice ou l'acteur a dû rentrer dans des codes pour correspondre, j'allais dire, à un produit quelque part. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est peut-être cette essentialité que vous avez touchée encore plus à Avignon.
Est-ce que je peux vous répondre ?
Bien sûr.
Par les mots de quelqu'un d'autre.
Oui, bah, tout est ouvert ici.
C'est un livre que je vais éditer parce que un éditeur m'a demandé de diriger une collection. Je lui ai dit que j'avais pas le temps, mais je lui ai dit si vous êtes OK pour que je n'édite que ce que je ne peux pas m'empêcher d'éditer, ce qui veut dire que si ça se trouve, je n'éditerai rien du tout. Si vous êtes OK, alors j'y vais. Et donc, depuis, j'ai édité 9 bouquins, je crois, et là, je vais en éditer un 10e. Alors, je vais vous répondre un petit peu en vrac, mais juste avant, pardon Angélique, d'imposer un tout petit rythme. Est-ce que je peux parler de cette histoire qui m'est tombée dessus il y a quelques jours ?
D'abord, terminer ce que vous avez dit, parce qu'il nous reste 6 minutes ensemble et je voudrais pas qu'on reste sur notre fin par rapport à ce que nous avez promis.
Alors,
vous aviez dit que vous me répondriez avec les mots de quelqu'un d'autre.
Ouais. Parce que, mais alors, je vais essayer de faire très vite. Alors, ce sont les mots de Laurent Bounic, qui a écrit ce livre que je vais éditer. Il a regardé les 200 DVD ou les 150, je ne sais plus, de l'année 2017. Il s'est fait ça comme une expérience. C'est une expérience, comme quelqu'un qui s'inocule quelque chose dans le sang et qu'on va voir se métamorphoser au cours, non pas d'heures, mais au cours de DVD. Il bouffe du DVD et ça le ramène à sa lucidité, à ses souhaits, à son manque, à tout ça. Donc, on voit un corps qui se transforme, une parole qui se transforme. Voilà. Et je pense qu'il parle très, très bien de la question que vous posiez. Mm-hmm. Je fais donc très vite. J'ai donc fumé 476 cigarettes, bu 6 bouteilles de tequila, raté 253 coups de fil, me suis tapé la tête contre les murs 14 fois et rigolé 15 fois, me suis posé des questions. Est-ce que les productions parient sur la fatigue pour nous faire avaler n'importe quoi en France ? Une vie qui passe trop vite et qu'on ne veut absolument pas remettre en question. Si les films ne sont pas une façon de tester notre humanité, de la provoquer, je me demande qu'est-ce que c'est qu'un film en fin de compte. Il y a des jours où tu as envie, tu veux croire aux contes de fées, au Père Noël, à la petite souris, à la gentillesse de ton patron, à la compréhension des flics, à l'écoute de ton banquier, à l'honnêteté du cinéma français, etc. Je me suis astreint à une tâche compliquée, car elle peut blesser certains ou certaines. Ça n'est pas mon but, juste je tente de remettre les choses face à une réalité que personne n'ose dire, le cinéma français va mal, très mal. Pendant une semaine, Orson Welles a tourné une séquence de son western, un cavalier qui galopait près d'un train et sautait de son cheval pour grimper à l'intérieur. Ça fait un petit peu penser cette phrase à ce qu'il vit en moi, en tout cas, ça m'a fait penser à ce qu'il vit en se regardant ses DVD. Le cinéma, c'est un peu comme la vie, le temps de faire un film, le temps de le voir, que ce soit pour le cinéaste ou le spectateur, le temps s'est rétréci, une peau de chagrin, plus le temps de faire un film, pas le temps de le voir. Passent les ministres et le problème reste. C'est pas parce que certains palpent un tas d'oseilles sur le dos d'un public neurasthénique, espérant oublier leurs problèmes en matant n'importe quoi, oh, que l'art cinématographique va réussir à s'en tirer. Faire un film, c'est déshabiller le réel pour le montrer à travers l'œil d'un cinéaste, le débusquer là où il se cache. Ça s'adresse à qui ce truc ? Il avait regardé un DVD. aux prolos qui se lèchent la bobine en matant d'un air goulu leur télé, ou peut-être aux votants des Césars, ils filent des échantillons, de caviar, je veux dire. Perso, ça ne m'a pas donné faim, mais plutôt envie de dégobiller, mais avec le petit doigt levé. Mes neurones lâchent, désolé, je me croyais vendredi, nous sommes mardi, j'en ai fait des conneries dans ma vie, mais celle-là, et je ne suis plus, me marre plus, me fatigue même. Merde, fuck, zut, j'en ai oublié un film, je veux dire, dans ma chronique. Je dois commencer à saturer, je dois sentir venir l'écurie, et je me précipite, je regarde plus trop bien devant moi. Il y a une vie à part les films, je veux dire, des rires et des sourires, des jolies madames et des jolies histoires à vivre. Rien n'est mauvais, ni les acteurs. C'est pour qui, ce film? La nouvelle tranche d'âge du public dans les salles de cinoche? Les plus de 75 ans? Parce que, j'avertis, ce sont pas mes potes des quartiers qui vont voir ce truc. C'est ça, ce que tu nous promets comme révolution? Je m'intéresse. Et c'était en compétition officielle à Cannes? Oh, les gars, c'est pour les maisons de retraite ou les cimetières que vous faites des films? Quand je tombe sur un film qui raconte quelque chose de cohérent, je tombe dessus comme la mie de pain du Messie. Alléluia. Un film qui assume son propos et le fait de belle façon. Je commence à être au bout du bout. Doit me rester 50 films à voir. Encore, c'est un véritable chantier chez moi. Il y a des canettes vides de Red Bull un peu partout, des feuilles de papier de tous les côtés gribouillées de notes, pour pas que j'oublie certaines impressions sur les films que j'ai vus. Des cendards disparus sous la main de cendres et de clopes, déjà consumées. Mes plantes vertes supplient qu'on les arrose. Il y a pas mal de factures qui asphyxient mon courrier. Il me reste 4 films longs à regarder.
Il nous reste 10 secondes.
Et 30 films courts, j'ai peur. Aujourd'hui, je vois plus de cinéma dans les séries sur Netflix ou Amazon que dans les films qui me sont proposés dans le coffret des Césars. Les séries ont une force narrative et visuelle et parfois un sujet qui ne sont plus permis au cinéma. À cause de quoi? Pourtant, le cinéma se doit d'interroger notre humanité.
À la semaine prochaine, Dominique. J'aimerais dire que, d'abord, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va en reparler. Je dis comme toujours, je vous aime. Ça, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine.
Vous écoutez IDFM, il est 22h.